7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, à quoi sert le microcrédit? Depuis plusieurs années, la microfinance apparaît comme l'une des solutions les plus prometteuses pour sortir de la pauvreté des millions de personnes qui n'ont pas accès aux banques. Mais qu'en est-il vraiment sur le terrain, dans les quartiers précaires des villes, dans les villages? À qui profite le microcrédit? Emprunter une petite somme d'argent, pourquoi faire dans le fond? Comment réaliser ses projets, rembourser son prêt surtout? Et avec quel accompagnement? Bien sûr, nous attendons vos réactions, vos expériences aussi, les voisins et les voisines. Qu'est-ce que vous pensez du microcrédit? Ces offres sont-elles adaptées à vos besoins? Appelez-nous tout de suite au 33 1 84 22 71 71. Dans le studio des 7 milliards, je reçois Isabelle Guérin, directrice de recherche à l'Institut de recherche sur le développement, l'IRD CESMA. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez un ouvrage ultra documenté qui s'appelle « La microfinance et ses dérives, émancipée, disciplinée ou exploitée ». Alors c'est un livre engagé qui dénonce certaines mises en scène du développement et puis qui tente aussi d'aller au-delà de ce qu'on appelle les belles histoires de réussite dans le développement. Vous nous en parlerez. Pauline Chabert, consultante en développement, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialisée dans les questions d'autonomie des femmes et d'égalité. On sait que la microfinance, le microcrédit concerne beaucoup les femmes, que les spécialistes de microcrédit aiment prêter davantage aux femmes, et vous revenez justement de Madagascar pour une mission sur les effets du microcrédit sur la vie des femmes qui empruntent à Antsirabe, c'est bien ça, dans le centre de l'île.
C'est ça.
Et j'en profite pour saluer les voisins et les voisines à Madagascar. Vous nous appelez, donc on parle du microcrédit, 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Moussa, qui est à Thiès, au Sénégal, nous dit « Moussa, le microcrédit fait peur. Les femmes en particulier prennent du crédit pour réaliser leurs petits projets, mais les débiteurs ne leur donnent pas le temps. Après quelques mois seulement, ils viennent chez elles pour récupérer l'argent ou saisir les biens de ces femmes. » Autre témoignage, Lambert, N'Djamena. Ici au Tchad, les microcrédits sont une véritable cause de pauvreté pour ceux qui y ont recours. Entre les intérêts sur le remboursement, les pénalités de retard, il vaut mieux faire autre chose. Autre point de vue, Ibrahima à Dakar, qui ne partage pas cette analyse. Le crédit, qui jadis était hors de portée du Sénégalais moyen, est rendu accessible par la microfinance. Du conducteur de moto jusqu'au petit fonctionnaire, en passant par la vendeuse de cacahuètes, tous ont la possibilité, nous dit Ibrahima, aujourd'hui, de bénéficier de financement pour leurs projets. Et grâce à ce système, poursuit Ibrahima, les populations aux revenus modestes ont pu relever de manière significative leur niveau de vie. Je salue l'action des institutions de microfinance et je les encourage à persévérer. Voilà, je ne sais pas s'il est lui-même salarié d'une institution de microfinance. Amadou à Dakar et nous dit au Sénégal, la confidentialité n'est pas respectée par les instituts de microcrédit, d'où la peur de prendre du crédit. Par exemple, les photos des mauvais payeurs sont affichées dans les salles d'attente. Et en plus, il n'y a pas de programme d'accompagnement pour les preneurs de crédit. Voilà, appelez-nous, on a vraiment envie d'en discuter de vive voix avec nos invités au 33 1 84 22 71 71, le microcrédit et ses dérives. Isabelle Guérin, Pauline Chabert, peut-être quelques mots que vous inspirent ces réactions d'auditeurs que je viens de lire. Isabelle Guérin.
Il me semble que les auditeurs mettent d'emblée le doigt sur un certain nombre de difficultés de ce microcrédit. On voit les deux premiers témoignages, le microcrédit fait peur. Donc on a là vraiment une réaction très forte à l'égard d'un discours extrêmement mythique qui a été promulgué ces dernières années, hein, selon lequel le microcrédit serait une source de lutte contre la pauvreté, d'émancipation. Un certain nombre de travaux que j'ai menés, donc, qui sont recensés dans l'ouvrage que vous avez mentionné, vont tout à fait dans cette direction. Alors, sans pour autant qu'il faille généraliser, mais il y a effectivement une partie de la microfinance aujourd'hui qui, contrairement à ce qu'elle affiche, appauvrit les gens plus qu'elle ne les aide à sortir de la pauvreté.
Pauline Chabert, vos réactions quant à ces témoignages, hein ?
Oui, effectivement. En fait, ça pose vraiment la question des conditions du microcrédit. Et donc, dans le cadre de la mission que j'ai menée donc avec mon agence de conseil Autrement Conseil à Madagascar, j'ai travaillé dans le cadre d'un projet vraiment dédié aux populations les plus vulnérables. qui a un impact plutôt favorable sur l'émancipation des femmes. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et pour moi, il y a vraiment deux conditions qui sont ressorties. C'est la question des taux d'intérêt. Et effectivement, qu'il faut que ces taux d'intérêt soient bas pour que ne pas favoriser du surendettement. Et la deuxième condition, c'est la mise en place d'un véritable accompagnement social pour accompagner la mise en place des projets de microcrédit.
Alors justement, on va en parler des taux d'intérêt. Isabelle Guérin, en principe, quelle doit être la finalité, le fonctionnement du microcrédit quand ça tourne bien, dans l'idéal ?
Peut-être démarrer par une première définition du microcrédit. Au départ, le microcrédit, c'est un outil de lutte contre l'exclusion bancaire. C'est-à-dire une personne qui est considérée comme insolvable par un banquier, principalement parce qu'elle n'a pas de garantie matérielle, et donc on considère qu'elle ne pourra pas rembourser son crédit, le microcrédit s'adresse en priorité à ces personnes-là. C'est, me semble-t-il, ce que devrait être la fonction du microcrédit. À partir de là, c'est mis en place toute une machinerie visant à assigner au microcrédit tout un tas de vertus supposées, lutte contre la pauvreté, création d'emplois et donc lutte contre la pauvreté, émancipation des femmes, démocratisation locale et que sais-je encore. Et là, me semble-t-il, il y a un problème de fond.
Quelle est la différence finalement entre une banque et une institution de microfinance ? Parce que là aussi, on a des questions sur le sujet. Une institution de microfinance n'est pas censée dégager des bénéfices ? Elle doit pouvoir juste payer son personnel ou...
Alors, la réponse n'est pas évidente dans la mesure où il y a les discours et la pratique, et puis il y a une évolution historique. Historiquement, le microcrédit, donc, qui s'adresse à des gens qui sont exclus des systèmes bancaires classiques, ce qui, si on prend le cas de l'Afrique subsaharienne, c'est 90% de la population. Donc il y a quand même vraiment un enjeu considérable.
Alors, bon, si on garde l'Afrique du Sud, il y a un peu plus, on va dire qu'il y a autour de 20% des gens qui sont bancarisés, mais enfin, ça reste très très peu. C'est le dernier continent à conquérir pour la banque.
Tout à fait, sachant qu'en Asie, on est à 60%, Amérique latine aussi, donc indépendamment de l'Afrique, le marché, entre guillemets, parce que c'est bien un marché dont il s'agit, reste quand même considérable, ce qui suscite un certain nombre de convoitises. Alors, pour revenir à votre question, la différence avec une institution bancaire, donc il y a la question des montants. Le montant moyen des microcrédits en Afrique subsaharienne, c'est 200 $. Il y a la durée. Le microcrédit, on reste aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, sur des durées relativement courtes. Le microcrédit dépasse rarement un an, ce qui pose aussi des problèmes en matière d'investissement. Comment peut-on véritablement créer une entreprise durable si on ne peut pas investir ? La question des taux, Pauline Chabert en a parlé. La question des taux qui est extrêmement controversée. Un chiffre pour démarrer, on estime aujourd'hui, d'après les données disponibles, que le taux moyen à l'échelle de la planète est de 27% par an.
Taux d'intérêt moyen.
Taux d'intérêt moyen. Alors, comme toutes les moyennes, il faut s'en méfier, ça cache de très très grandes disparités, avec des organisations qui facturent à taux zéro, des organisations qui n'hésitent pas à dépasser les 100%.
Alors, pour qu'on comprenne bien les taux d'intérêt, nous, on a fait une petite simulation avec Romain Dubras quand on a préparé l'émission. J'emprunte 100 €, par exemple, sur 6 mois, avec un taux d'intérêt à 20%. Au bout de 6 mois, j'ai remboursé mes 100 €, parce que si je dois rembourser au bout de 6 mois, je rembourse. J'ai remboursé mes 100 €, mais en fait, j'ai remboursé plus avec les intérêts, j'ai remboursé presque 106 €. Voilà, c'est ça pour que les auditeurs comprennent bien. Ces taux d'intérêt, vous dites qu'en fait, en moyenne, on est plutôt autour de 27%, mais avec d'énormes variations. Ce sont des taux d'intérêt qui sont élevés par rapport à des taux d'intérêt qu'on pratique en Europe pour des gens aisés.
Bien évidemment, aujourd'hui, si vous prenez le cas de la France, le microcrédit, et pour prendre l'exemple du microcrédit français, on est autour de 10% pour l'une des plus grosses organisations françaises. Alors l'argument qui est souvent avancé pour justifier ces taux d'intérêt élevés, effectivement, faire du microcrédit à des populations pauvres sur des petits montants, ça coûte très cher, effectivement.
Parce qu'on gère plein de dossiers, on gère plein d'ardoises, pour parler familièrement, c'est ça.
Hein. Donc il y a tout un travail de détection et d'identification qui coûte évidemment beaucoup plus cher quand on s'adresse à 50 personnes que quand on s'adresse à une seule personne. Un autre argument, et cet argument est tout à fait légitime, Un autre argument qui est généralement avancé, c'est ce qui compte pour ces personnes-là, ce n'est pas le coût, c'est l'accès. Et dans la mesure où on est sur des petites sommes, le coût n'est pas important. On oublie qu'une grande partie de cette population vit avec des revenus extrêmement limités. Donc cet argument...
Et qui n'ont pas accès au cash. Donc prêter à des gens pauvres, Pauline Jabert, est-ce que c'est beaucoup plus risqué pour un institut de microfinance ?
Alors, certainement, et en même temps, encore une fois, tout est dans l'accompagnement. C'est-à-dire que si la structure... gère un accompagnement à la fois économique et social, c'est-à-dire que la famille bénéficiaire ou la femme bénéficiaire, puisqu'en l'occurrence c'est souvent des femmes majoritairement, le taux de remboursement est meilleur. Et en fait c'est là que ça justifie cet investissement en faveur d'un accompagnement social pour éviter aussi les effets pervers du microcrédit qui ont été bien définis par Isabelle Guérin. Qui peuvent être en fait le surendettement, mais aussi par exemple quand il s'agit des femmes, le désengagement des hommes du budget familial, puisque une femme qui va gagner de l'argent et qui va ramener des nouveaux revenus au foyer, son rôle étant de le réinvestir dans l'éducation des enfants et dans les dépenses familiales, et parfois les hommes en profitent pour se désengager et pour aller investir ailleurs.
Mais alors pourquoi les instituts de microfinance adorent prêter aux femmes et prêtent davantage aux femmes?
Alors là-dessus, il y a certainement plusieurs explications.
Parce qu'elles disent que c'est moins risqué, les femmes remboursent mieux, sont plus fiables, parce qu'elles ont la survie de leurs enfants. On a beaucoup donné ces arguments, c'est ce que donnent en tout cas comme argument les institutions de microfinance. C'est vrai, Isabelle Guérin ?
Là encore, il faut distinguer les discours et la pratique, tout en ayant bien en tête la très grande diversité des situations et des contextes. Officiellement, les arguments qui sont mis en avant pour justifier de ce ciblage féminin, on estime aujourd'hui que 70% de la clientèle du microcrédit est féminine. Ce qui, par rapport à des expériences historiques de crédit, est tout à fait remarquable. Les arguments qui sont généralement avancés pour justifier de ce ciblage féminin sont de plusieurs ordres. Des questions d'égalité et d'équité. Les femmes sont davantage exclues des systèmes bancaires classiques. Elles ont moins lettrées, elles ont moins de garanties matérielles, etc. Des arguments d'efficacité. Prêter 100 dollars à une femme, on a plus de chances qu'une partie de cet argent ou des bénéfices qui en sont retirés seront utilisés pour la famille. Les hommes sont supposés dispendieux.
C'est ça, c'est ce qu'on disait. Mais voilà. Dans la réalité, alors, il y a d'autres raisons cachées qui font qu'on prête davantage aux femmes ?
Une raison, de mon point de vue, absolument essentielle, dans un très grand nombre de cas, c'est que les femmes sont davantage disciplinées et davantage dociles. Un seul exemple. Alors, qui est beaucoup plus valable pour l'Asie, où on est dans un contexte où les femmes ont une mobilité physique extrêmement limitée. Pour un agent de crédit qui est extrêmement contraint par sa hiérarchie pour récupérer ses remboursements, s'adresser à une femme est beaucoup plus efficace dans la mesure où il est sûr de trouver les femmes à leur domicile. Si on prend l'historique de la Grameen Bank...
Mohamed Yunus au Bangladesh, prix Nobel de la paix en 2005.
Prix Nobel de la paix. La Grameen Bank, c'est aujourd'hui 8 millions de clients, 95% de femmes. Officiellement, on cible les femmes pour favoriser ce qu'on appelle leur émancipation. En pratique, vous avez tout un tas de travaux qui montrent que le ciblage féminin répond avant tout à une volonté et à une nécessité d'être beaucoup plus efficace dans les remboursements.
Alors, vous nous appelez, les voisins et les voisines, pour commenter toutes ces analyses et nous dire aussi ce que vous vivez avec le microcrédit au 23-1-84-22-71.
Indizara, Any Story, chez 7 milliards de voisins. Nous parlons du microcrédit. Quelle dérive du microcrédit? Vous êtes nombreux à nous envoyer des témoignages. Nous accueillons Boubacar qui nous appelle de Bamako. Bonjour Boubacar. Boubacar, nous entendez-vous à Bamako? Allô, allô.
Allô.
Boubacar, vous êtes...
Allô.
Oui, bonjour Boubacar, soyez le bienvenu.
Allô.
Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins.
Oui.
Boubacar, vous êtes ancien président de, d'une caisse mutualiste nationale de microcrédit et vous souhaitez nous faire partager votre analyse et votre expérience, semble-t-il.
Allô.
Oui, Boubacar, vous êtes en direct sur RFI. Allô, allô.
Allô.
Oui, il semblerait que Boubacar ne nous entende pas. Nous essayons de le rappeler. C'est fort dommage. Nous parlions de la cible privilégiée du microcrédit et de la place des femmes. Donc 70% des femmes, c'est les bénéficiaires principales du microcrédit. Plutôt dans les villes ou plutôt d'ailleurs dans les villages, Isabelle Guérin?
C'est de plus en plus urbain. Pour une raison assez simple, la microfinance, dans sa forme dominante, ayant de plus en plus de contraintes de rentabilité, il est beaucoup plus facile de faire du microcrédit à moindre coût en zone urbaine. Mmh. Et il y a aussi d'un point de vue économique, par rapport à l'objectif officiel de ce microcrédit, qui est d'accompagner la création de petites entreprises, les potentiels sont, on suppose... Mmh. Beaucoup plus important en zone urbaine.
Ouais, avec la croissance des villes notamment. Pauline Chabert, vous souhaitiez réagir sur justement l'analyse d'Isabelle Guérin sur les femmes qui sont officiellement, ce sont elles qui avec le microcrédit peuvent sortir la famille de la pauvreté, etc. Et en même temps, ce sont celles en qui l'institution de microfinance préfère s'appuyer pour parfois aussi des raisons peut-être moins avouables. Comment vous réagissez par rapport à ça?
Oui, merci. En fait, je suis complètement d'accord avec ça. Et il me semble que si on a ciblé sur les femmes en premier, c'est parce qu'elles se sentent beaucoup plus responsables de la survie ou en tout cas du bon fonctionnement de leur foyer en tant que femmes, puisque le rôle qui leur est assigné en tant que femmes dans la société les rend responsables de ça. Donc effectivement, c'est bien pour ça que le microcrédit a ciblé les femmes en premier. Mais par contre, ce qui est intéressant et à mon avis d'avoir dans le cadre de cette réflexion, c'est dans quelle mesure le microcrédit peut favoriser ou non l'émancipation des femmes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement qu'elles puissent accéder à une activité économique, c'est aussi comment cette activité économique favorise leur émancipation. Donc par exemple, leur accès à des moyens de contraception, leur accès à l'état civil ou leur accès à l'espace public tout simplement.
On est en ligne avec Boubacar, si on l'a retrouvé, si les lignes téléphoniques fonctionnent. Boubacar, vous êtes à Bamako, nous entendez-vous?
Oui, je vous entends. Bonjour Emmanuel, bonjour 7 milliards.
Non, il semblerait qu'il y ait un problème à la technique, ça vient peut-être de chez nous semble-t-il. Boubacar, nous essayons de vous rappeler, la ligne n'est pas audible. Alors, on poursuit sur les femmes, Pauline Chabert, parce que est-ce qu'on peut imaginer aussi que quand une femme emprunte et que l'usurier vient la voir pour lui dire n'oublie pas de rembourser, etc., il soit plus... facile aussi d'exercer une forme de pression sur ces femmes qui sont socialement plus fragiles, plus étant leur place dans la société. Isabelle Guérin ou Pauline Chabert, je ne sais pas comment.
Juste pour répondre rapidement, effectivement, je pense que c'est facile de tomber dans la pression ou dans l'effet pervers puisqu'on peut utiliser cette soi-disant faiblesse ou cet accommodement. Après, tout est encore une fois dans la manière dont on gère. Et on peut aussi gérer le microcrédit avec du respect.
Isabelle Guérin?
Oui, non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Mais effectivement, dans un certain nombre de sociétés, il faut bien tenir compte de la grande diversité des normes sociales et culturelles en vigueur dans chaque société, notamment concernant la question des rapports entre hommes et femmes. Mais il est évident que dans un certain nombre de contextes, être capable de gérer le budget familial correctement et être capable d'honorer des petites dettes repose en grande partie sur la responsabilité des femmes. Et donc il est évidemment beaucoup plus efficace, compte tenu de ces formes de sociabilité et de construction des statuts des hommes et des femmes, de s'adresser aux femmes pour optimiser les remboursements.
Vous restez avec nous, Isabelle Guérin et Pauline Chabert. À quoi sert le microcrédit? Quels bénéfices et quelles dérives? On en reparle juste après le flash, dans 3 minutes.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Nous parlons du microcrédit aujourd'hui avec Isabelle Guérin qui est directrice de recherche à l'IRD. Vous publiez La microfinance et ses dérives, émancipées, disciplinées ou exploitées. Grand point d'interrogation. Pauline Chabert, vous êtes consultante en développement et spécialisée notamment dans l'autonomisation des femmes. Ça peut être par le microcrédit, pourquoi pas. Alors, on se pose cette question, à quoi sert le microcrédit? Est-ce qu'il faut surtout l'encadrer davantage par des règles? Est-ce qu'il y a eu une dérive des pratiques de microcrédit ou d'un microcrédit au idéal au départ qui était de fournir du cash à tous les exclus bancaires? Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, notamment sur le continent africain. Vos points de vue, vos expériences, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. N'attendez pas la fin de l'émission surtout. Je vous lis le message de Yakuba qui est à Kara au Togo. Alors lui, il nous dit qu'il a découvert le microcrédit par une publicité fin 2011. Ça avait l'air très bien, nous dit Yakuba. J'ai déposé 300 000 francs CFA de garantie pendant 6 mois. Et puis ensuite, j'ai emprunté 900 000 francs CFA à 18% en janvier 2012. Donc on lui demande une garantie pour vérifier qu'il a une capacité. S'il a une capacité à épargner, bon, c'est qu'il a une capacité à rembourser. Il emprunte ses 900 000 francs CFA à 18% en janvier 2012 pour réaliser un projet d'entreprise de travail du bois. Hein, donc là aussi, voilà, projet valorisant, etc., qui séduit l'organisme de microcrédit. Et dès février, nous dit Daouda, ils m'ont réclamé 138 000 francs CFA comme remboursement. En septembre, je n'ai pas pu payer ma mensualité. Ils m'ont appelé, ils m'ont menacé d'appeler la police. En décembre, pour ne pas avoir d'ennui, j'ai fini par tout rembourser. Mais du coup, pour ça, j'ai emprunté de l'argent à mes amis. Je regrette énormément d'avoir cédé au microcrédit. Ça m'a coûté très cher et je n'ai même pas pu réaliser mon projet puisque je devais utiliser tout mon argent à rembourser le prêt. Ce genre d'histoire, celle de Yakuba, elle est générale, elle se répète. Vous l'entendez souvent, Isabelle Guérin?
Oui, je crois qu'il y a un des problèmes majeurs du microcrédit aujourd'hui, c'est de considérer qu'il suffirait de prêter une petite somme à quelqu'un pour qu'il puisse, il ou elle, puisse créer une entreprise. Dans le témoignage qu'on a ici, d'une part, on a le sentiment que le projet n'a pas été mené à bien, ce qui veut bien dire que l'accès au crédit n'était peut-être pas la seule contrainte. Et ça, c'est un point fondamental. Il y a vraiment une illusion complète sur le fait que la création d'entreprise est uniquement une question d'accès au crédit. Deuxième difficulté qui est soulevée par ce témoignage, c'est le fait que ce qui importe, c'est pas seulement un crédit, c'est aussi un crédit dont les modalités, en termes de montant, en termes de modalités de remboursement, en termes de coûts, sont véritablement adaptées aux contraintes financières de la personne.
Et que ça soit bien expliqué, surtout.
Il y a les deux choses. Il y a l'adaptation aux contraintes de l'entrepreneur, et le microcrédit aujourd'hui a beaucoup de mal à faire preuve de flexibilité par rapport à une très grande diversité de besoins. Visiblement, ce monsieur aurait eu besoin d'avoir une certaine période de grâce avant de pouvoir rembourser. Et puis ensuite, il y a la question de la communication et de la transparence, ou de l'absence de transparence, qui n'est pas générale, mais qui effectivement, dans un grand nombre de cas, les organisations étant pressées par le temps, étant obligées de faire des économies d'échelle, elles ne prennent pas le temps d'expliquer correctement à leurs clients.
Mais il y a pourtant des réglementations, non, maintenant, dans ces pays?
Bon, la réglementation, c'est toujours pareil, microcrédit ou autre. D'une part, elle n'est pas toujours existante. D'autre part, quand elle existe, les organisations ont des contraintes pratiques qu'elles répercutent sur leurs agents et qui eux-mêmes n'ont absolument pas le temps, dans un grand nombre de cas, d'expliquer les choses.
C'est ça. Donc, en fait, conseil peut-être à donner à nos auditeurs, c'est d'aller voir un organisme de microcrédit que l'on connaît, qui a déjà prêté à des voisins, à des amis, avec lesquels ça s'est bien passé, peut-être. Hein, parce que là, il nous dit qu'il a finalement contacté cet organisme de microcrédit par une publicité.
Je pense qu'effectivement, s'assurer qu'on a parfaitement compris les tenants et les aboutissants et l'ensemble des contraintes exigées dans l'octroi du microcrédit puis dans son remboursement est un conseil essentiel qu'il faut
comprendre
donner.
À partir de quand on va rembourser et combien. On est en ligne avec Boubacar, que nous avons enfin réussi à joindre. Enfin, j'espère. Boubacar, rebonjour, vous êtes à Bamako.
Oui, bonjour Elisabeth.
C'est Emmanuel. Boubacar, alors votre histoire est... Oui, c'est pas grave Boubacar. Votre histoire est intéressante parce que vous êtes un ancien président de conseil d'administration d'une caisse mutualiste nationale de microcrédit, qui est inséré dans un réseau de caisses. Et vous ne faites plus partie de cette caisse mutualiste aujourd'hui. Vous allez nous expliquer pourquoi très rapidement.
Bon, je vous félicite déjà
Oui, allez droit au but. C'est gentil, Boubacar. Allez droit au but. Vraiment, expliquez-nous votre histoire qui est très intéressante parce que d'autres auditeurs souhaitent participer. Nous vous écoutons.
Oh, mon histoire est que quand j'ai été président de deux conseils d'administration, le conseil de la caisse de base et le conseil d'administration du réseau.
Oui.
J'ai voulu réformer le réseau pour baisser les taux.
C'est ça, vous vouliez abaisser les taux d'intérêt qui étaient trop.
Entre 27% déclarés et 37% de taux réel. Pour en venir aux femmes, il y a un crédit éducation dont vos conseils en ont parlé, vos invités.
Oui.
Si vous faites un calcul réel du taux dépasse les 600%.
On ne vous entend plus, Boubacar, je suis désolée, il y a vraiment un problème sur la ligne. Mais alors, bon, ce qui est intéressant, c'est que vous faisiez partie de cette caisse mutualiste. Vous avez tenté de réformer le règlement de l'intérieur et vous avez été licencié. Et vous avez bien dit au standard que cette caisse était censée ne pas faire de bénéfices, mais que finalement, elle fonctionnait comme une entreprise et qu'elle avait augmenté les taux pour faire des bénéfices. Voilà. Isabelle Guérin, peut-être un commentaire sur le témoignage de Boubacar qu'on vient d'entendre.
Oui, malheureusement, c'est assez symptomatique d'une dérive forte de ce microcrédit qui est complètement absorbé par une logique qu'on pourrait qualifier sans hésiter de capitaliste et de néolibéral, avec cette croyance qui n'a jamais été vérifiée, qui consiste à penser que le microcrédit peut non seulement équilibrer ses coûts, mais être rentable. Cette croyance ravage complètement le secteur. Elle a été proférée par un certain nombre de gourous du microcrédit. C'est
rentable,
aujourd'hui,
ça veut dire dégager des bénéfices.
Dégager des rentables. Bénéfices. Tout à fait. Le problème, c'est que faire du microcrédit, ça coûte cher. Donc, certaines organisations parviennent à être rentables. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais cette rentabilité suppose des taux d'intérêt élevés, suppose une absence d'accompagnement, suppose des mesures de coercition pour s'assurer des remboursements. Et il faut bien savoir qu'un grand nombre d'organisations ne sont pas rentables, parce que c'est extrêmement compliqué d'être rentable, mais cherchent désespérément à l'être. Non pas que ces organisations veuillent à tout prix faire du profit, mais elles sont prises dans un système global, elles sont prises dans un ensemble de contraintes qui reposent sur cette croyance de la possibilité de rentabilité.
On est en ligne avec Daouda qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Daouda.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Durbel, hein, dans l'est à l'est de Dakar. Vous travaillez dans une ONG depuis déjà quelques années qui forme des futurs clients pour qu'ils puissent bénéficier ensuite de microfinances. C'est bien cela ?
Oui, l'action que nous menons pour la plupart est basée sur la formation d'abord, parce que pour nous, c'est l'aspect qui pourrait permettre à une communauté, à un individu, d'être mieux informé, mieux préparé, et ensuite d'être mieux accompagné. Donc ce que nous faisons, il s'agit d'une identification d'un certain nombre de communautés qui, sur la base des statistiques nationales, sont exclus du système formel. Et donc, nous appuyons beaucoup par les formations et un accompagnement durant...
Mais qu'est-ce que vous entendez par formation ? Qu'est-ce que vous expliquez concrètement aux clients du microcrédit ? Comment va se dérouler les remboursements, etc., pour qu'ils comprennent bien le règlement du contrat ? Ou est-ce que vous entendez des formations professionnelles pour mener à bien leur projet professionnel ?
Bon, il s'agit pratiquement de tout cela. Parce que d'abord... un individu ne peut être un futur bon client tant qu'il n'a pas en lui cette question et cette culture de l'épargne. Mais épargner, c'est pas aussi n'importe comment, parce que ces communautés, pour la plupart, vivent de leurs revenus.
La ligne a été coupée. Bah, décidément, aujourd'hui, c'est vraiment épique, hein, 7 milliards de voisins. Émission interactive, on parle du microcrédit aujourd'hui, mais essayez quand même de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Peut-être sur l'accompagnement, alors sur l'aspect financier déjà, Isabelle Guérin, est-ce que ça, c'est absolument indispensable qu'il y ait un accompagnement sur le déroulement des remboursements, en fait, un accompagnement sur la connaissance financière du microcrédit?
Alors, deux commentaires par rapport à ça. Il y a effectivement un gros problème de transparence. Donc, il y a effectivement un travail essentiel d'explication et de transparence sur les conditions. Ceci étant, il faudrait éviter de penser qu'on va résoudre les limites du microcrédit par de l'éducation financière. Ce terme est aujourd'hui très à la mode. Ou par de la formation. Je pense que dans un certain nombre de contextes, former les gens à l'usage du microcrédit ou à la création d'entreprise peut être tout à fait efficace. Dans un grand nombre de contextes, vous avez beau les former, la création d'entreprise suppose bien d'autres choses. Mmh. Et je pense que c'est fondamental.
À savoir un niveau d'éducation minimum,
Beaucoup plus que cela. C'est un savoir-faire et un savoir-être qui s'apprend beaucoup plus par l'expérience et l'apprentissage que par des compétences de type scolaire. Ce sont des réseaux. Mmh. Réseaux avec des fournisseurs, réseaux avec des clients. Et c'est surtout une demande locale. Vous pouvez avoir des entrepreneurs extrêmement talentueux, un microcrédit parfaitement fait, peu cher. Si en face, vous n'avez pas de clients, il ne se passera rien. Mmh. Donc je crois qu'il faut vraiment attirer l'attention sur les limites du microcrédit, même quand il est très bien fait.
Pauline Chabert, comment fonctionne justement le microcrédit que vous êtes allée observer en Sirabé, à Madagascar, auprès des femmes ?
Alors, il fonctionne exactement avec une éducation financière et d'autres donc types de services. Donc c'est en fait, je pense que c'est vraiment un exemple un peu qui peut démontrer un peu le côté bénéfique du microcrédit un peu en dehors de toutes ces dérives. C'est-à-dire, c'est vraiment des projets qui sont suivis très près, des taux d'intérêt très bas. C'est des crédits sans garantie. Donc pour les femmes, c'est avantageux puisque, comme vous le savez, les femmes sont moins propriétaires, voire pas propriétaires dans de nombreux pays puisqu'elles ont moins accès notamment à l'héritage fait des codes de la famille et des pratiques et des coutumes. Et c'est des crédits qui sont de 3 à 6 mois et renouvelables.
Oui. Et pour faire quel type d'activité ?
Les types d'activités, c'est essentiellement du petit commerce. Ça peut être fruits et légumes ou de la volaille ou sinon des petites échoppes d'alimentation de rue.
C'est ça, ce sont des métiers que ces femmes pratiquent déjà, dont elles connaissent déjà les rouages en fait.
Alors c'est des métiers effectivement qu'elles pratiquent déjà. C'est quand même de l'activité économique de survie et c'est là que se pose cette question de comment on passe du micro au mésocrédit ou en tout cas d'une micro-activité qui permet de sortir de la pauvreté, de survivre à une activité économique véritablement. Donc ça, c'est un enjeu fondamental. Et pour revenir à ce que vous disiez, je suis totalement d'accord sur cette question de la création d'entreprises et donc du microcrédit qui est brandi de façon un peu par tous les pays comme étant la solution au chômage et à la crise économique. Alors qu'en réalité, on le sait très bien, être entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde. Effectivement, il y a des contraintes qui sont liées au marché, mais aussi il y a des contraintes de réseau et des contraintes personnelles. Et donc la création d'entreprise, c'est pas la solution à la crise économique et c'est pas la solution pour les femmes à la crise économique.
Mais là, dans le cas du projet Antsirabé, c'est du microcrédit pour du microcommerce. Donc c'est infaillible, ça marche forcément ou pas ?
Je ne sais pas si ça marche forcément. En tout cas, la manière dont Inter-Aid, l'association qui a mis en place ce projet, procède, fait que ça fonctionne et que le taux de remboursement est à 90%, voire plus. Et je tiens à souligner que c'est une association qui ne vit pas sur subvention. Donc oui, ça peut marcher. En fait, il y a des conditions qui font que le microcrédit peut fonctionner.
L'institution de microfinance en Sierra B, là, cette ONG qui pratique des taux d'intérêt tellement bas, vous nous le disiez en première partie d'émission, autour de 5%.
3%,
c'est ça. Donc c'est vraiment presque rien. Elle perd de l'argent ?
Non.
Comment fait-elle ? Puisque toutes les institutions de microfinance nous disent « Ah non, mais vous savez, en dessous d'un taux d'intérêt à 20%, on ne peut pas s'en sortir, on perd de l'argent, on ne peut pas être rentable ».
Ils arrivent à être rentables. Ils ont trouvé une recette.
Donc, ils arrivent à payer leurs employés pour gérer les dossiers des femmes qui empruntent. C'est bien
exactement,
cela.
Exactement, à payer leurs employés. Donc, c'est une équipe malgache, entièrement. Et
Isabelle Guérin, vous souhaitez réagir ou pas là-dessus ? Parce que
non, le témoignage de Pauline Chabert est intéressant puisqu'il montre bien qu'il faut distinguer une forme dominante de microfinance qui est, de mon point de vue, extrêmement perverse. Et à laquelle il faut vraiment être très vigilant. Et puis, ce qui n'empêche pas l'existence de pratiques qui ont bien compris la particularité des communautés dans lesquelles elles interviennent et qui mettent en place tout un ensemble de services bien au-delà du microcrédit pour s'assurer que, les, que le microcrédit soit positif.
Donc concrètement, un organisme de microfinance peut ne pas dégager de bénéfices, mais parvenir à ne pas perdre d'argent, hein, c'est-à-dire être à l'équilibre, sans léser ses clients, avec des taux d'intérêt extrêmement raisonnables.
On ne peut pas généraliser, il y a vraiment, tout dépend, faire du crédit, du microcrédit dans le désert sahélien, ça coûte évidemment beaucoup plus cher que dans une banlieue, une grande ville africaine. Il y a bien d'autres facteurs qui entrent en jeu qui font que il y a vraiment une grande diversité de situations qui font que la question de la est-ce que c'est possible que ce soit rentable ou pas dans l'absolu ne fait pas grand sens. C'est compliqué, c'est possible dans certains contextes, mais uniquement dans certains contextes bien précis.
33 1 84 22 71 71. J'ose encore donner le numéro de téléphone du standard. Le suspense est total. Nous accueillons un voisin qui nous appelle de Conakry. Bonjour Abdourahmane.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs et à tous les voisins.
Soyez le bienvenu. Vous êtes en Guinée-Conakry et vous êtes vous occupez d'entrepreneuriat des jeunes et vous souhaitez réagir sur le microcrédit et le problème des jeunes en Guinée-Conakry.
Effectivement Emmanuel, en Guinée, les microfinances se sont développées ces dernières années en réaction à la faiblesse du revenu, non seulement des ménages, mais aussi aux conditions d'accès difficiles au financement proposé par les banques, c'est-à-dire les banques commerciales. Cependant, la réalité sur le terrain est tout autre. Donc mon constat va s'articuler autour de trois points qui constituent vraiment des véritables obstacles pour le jeune entrepreneur guinéen lambda. Le premier obstacle se situe sur le taux d'intérêt, le second c'est sur les garanties, et le troisième obstacle c'est sur les bénéficiaires, notamment les populations rurales. Sur le taux d'intérêt, très rapidement, qui se situe entre 2 à 4%. Mais tenez-vous bien, Emmanuel, que ce taux n'est pas annuel, mais plutôt il est mensuel. Donc, de façon arithmétique, le taux annuel s'élève entre 24 et 48% l'an. Si vous empruntez, par exemple, 1 million de francs guinéens, ça c'est l'équivalent de 100 euros, il vous faut un taux d'intérêt annuel en ce moment de 480 000 francs guinéens, c'est-à-dire 48 euros par an. Donc, ce qui constitue un véritable fardeau pour un jeune entrepreneur qui est à ses débuts.
Oui, mais ça, c'est pas spécifique, oui. C'est pas un handicap spécifique pour l'emploi des jeunes. Hein, ceci dit, c'est pour tout type de population, ces taux d'intérêt qui sont trop élevés, on en parle depuis le début de l'émission.
Oui, effectivement, mais si je prends par exemple une banque classique qui propose un taux de 15%, et on dit que vraiment les institutions de microfinance, c'est pour substituer, c'est pour alléger la tasse au Guinéen qui a le revenu moins, et alors que ces institutions de microfinance proposent un taux d'intérêt qui avoisine les 50% l'an, moi je pense que là c'est vraiment un paradoxe.
Effectivement. Et alors sinon, vous souhaitiez aussi nous parler des garanties énormes qui sont demandées justement à l'encontre des jeunes.
Effectivement, les garanties, je vais les situer à deux niveaux. Il y a des garanties personnelles, il y a des garanties réelles. En ce qui concerne les garanties personnelles, généralement on les appelle les garanties morales. C'est-à-dire que ces garanties sont contraires à nos coutumes, à nos mœurs. Puisque ces institutions de microfinance parfois font appel même à des beaux-frères ou bien à des beaux-pères. C'est-à-dire si c'est une femme qui veut emprunter à son beau-père, c'est-à-dire le mari à sa femme. Et si c'est un homme, on peut faire appel à sa belle-mère, c'est-à-dire la maman... À sa femme, être garant. Donc vous voyez, et là il faut avoir peur vraiment de l'humiliation et tout ce qui peut en suivre. Donc ça c'est un frein. Le deuxième frein, c'est les garanties réelles. C'est-à-dire on peut demander des cautions financières, on peut demander par exemple à celui qui veut obtenir un prêt à constituer d'abord 20% du montant comme épargne. Et si c'est un jeune qui a ses débits, où est-ce qu'il va enlever ses montants? Donc je pense que cela constitue un véritable obstacle. On demande parfois des maisons, des terrains, des titres fonciers. Donc tout cet arsenal-là, vraiment, c'est complexe et ce n'est pas adapté au contexte local. En ce qui concerne brièvement les garanties, c'est ce qu'il faut retenir et ce n'est vraiment pas adapté.
Sur le problème des garanties, Isabelle Guérin, donc de la sécurité, hein, par exemple aussi quand un client meurt, quand il a un accident qui l'empêche de travailler, etc., on voit bien là qu'il y a un piège qui se referme sur les clients.
Oui, donc ce témoignage est encore une fois malheureusement symptomatique d'une tendance assez forte qui consiste à récupérer les remboursements, quelle que soit la situation de l'emprunteur, avec ce problème de base qui est, dans un certain nombre de cas, et c'est bien pour ça qu'il y a du microcrédit, l'absence de garanties matérielles. On substitue à des garanties matérielles des garanties sociales, la pression de groupe, mais aussi beaucoup l'humiliation, la dénonciation publique, et on extorque à ces populations la seule chose qui leur reste, leur dignité.
Amadou qui nous disait en début d'émission là sur les réseaux sociaux, on met les photos aussi des mauvais payeurs qui sont affichés dans les salles d'attente des organismes de microcrédit. Ça vous l'avez vu ailleurs, dans d'autres pays?
Oui, c'est il y a tout un tas d'illustrations possibles, mais effectivement, je confirme que beaucoup trop souvent, c'est pas systématique, mais beaucoup trop souvent, on mise sur l'humiliation des gens pour s'assurer qu'ils remboursent. Et c'est effectivement très efficace, surtout dans des contextes. Alors, ce serait pas efficace partout. Qui a envie d'être humilié? Personne. C'est particulièrement efficace dans des contextes où la réputation joue un rôle absolument central, à plein de niveaux différents.
Merci beaucoup Abdourahman pour ce témoignage de Conakry. On accueille dans quelques instants un dernier auditeur, je crois qu'il nous appelle d'Ottawa, 331 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Bonjour Patrick, vous êtes à Ottawa, au Canada, bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous avez la parole chez 7 milliards de voisins,
oui,
sur le microcrédit.
Ce que j'aimerais dire, c'est juste que, effectivement, le problème, c'est que ça devrait être considéré comme un outil social avant tout, de promotion des populations à faible revenu. Et absolument, moi j'ai travaillé longtemps dans une banque, ça ne peut pas rentrer dans la logique, à mon avis, et d'investisseurs qui veulent avant tout leur profit, ce qui est normal. Et à chaque fois qu'on essaye de faire la promotion de populations fragiles, il faut qu'il y ait un accompagnement de l'État, et ça doit être avant tout un outil social. Moi, ça me rappelle beaucoup l'intégration des nouveaux arrivants au Canada, qui arrivent, qui essayent de se trouver du travail, mais avec le système capitaliste tel qu'il existe, c'est très difficile, parce que ça coûte de l'argent aux employeurs de les intégrer. Mais l'État devrait accompagner ces programmes-là de façon plus importante. Et c'est le cas du microcrédit. On n'arrivera jamais si on le considère juste comme à le laisser comme un outil à la disposition des banques, tant que l'État vraiment s'implique véritablement.
Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait véritablement, justement, plus de réglementation, avoir des cadres plus rigides organisés par les États? Ça serait quoi le microcrédit idéal pour qu'il fonctionne, qu'il ne perde pas d'argent, mais qu'il n'arnaque pas les bénéficiaires pour autant?
Bon, la première chose, ce serait de changer le discours, de admettre que c'est un outil avant tout social, et maintenant d'avoir des institutions d'État spécialisées qui servent d'intermédiaire entre ces banques-là et les bénéficiaires de ces crédits-là. Et de faire en sorte que ce soit vraiment une expertise de ces institutions sociales. Mais ça rentrerait dans le cadre de redistribution plus générale des revenus au niveau du pays. Et si c'est laissé entre les mains des banques, on arrive à cette dérive, c'est pas étonnant.
Merci beaucoup pour cette intervention, Patrick. Isabelle Guérin, finalement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des solutions alternatives qui se dégagent par rapport à la microfinance business telle qu'on l'a décrite et qui, semble-t-il, en tout cas, c'est ce que vous décrivez dans votre livre, a pris un peu le dessus par rapport à l'idée originelle de la microfinance?
Un commentaire sur ce que disait notre auditeur. Je pense qu'effectivement, laisser le microcrédit dans les mains du système bancaire est tout à fait problématique. Pour autant, plaider pour une intervention publique massive n'est pas si simple. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans un certain nombre de pays, vous avez une forte résurgence de programmes de crédit public. Alors qui sont certes moins chers.
Vous pensez à quel pays, là, très rapidement, quelques exemples?
Je pense à la Tunisie, je pense au Sénégal, je pense au Bénin, je pense à l'Inde, je pense à un certain nombre de pays d'Amérique latine. Ces programmes sont certes peu chers, mais sont surtout, je le dis rapidement, des systèmes de captation de vote.
Donc là, on est dans un système de clientélisme
Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner toute idée d'interventionnisme public. Loin de moi cette idée-là, mais j'attire simplement l'attention sur le fait que, malheureusement, dans un trop grand nombre de contextes, les populations démunies sont tiraillées entre, d'une part, le microcrédit requin du système bancaire et, d'autre part, le microcrédit populiste et clientéliste de l'État.
Alors, une raison d'espérer, juste avant qu'on se quitte, peut-être l'épargne solidaire
Une raison d'espérer, être réaliste, c'est ce que que disait l'auditeur, et puis miser sur des formes innovantes, hybrides, qui combinent ressources publiques pour cette question de coût qui est extrêmement problématique, qui combinent des ressources marchandes, parce que le marché, quand il est bien fait et quand il ne spolie pas les gens, est tout à fait peut tout à fait être utile, qui mise aussi sur la réciprocité et la solidarité.
Dans une communauté est donnée, c'est-à-dire là on revient à un système un peu de tontine finalement.
Oui, mais articulé avec une question de droit, parce que les tontines, ça, c'est aussi très exclusif.
Pauline Chabert.
Oui, juste pour terminer, donc je pense qu'il est essentiel d'avoir en tête les effets pervers du microcrédit quand on travaille sur ces sujets, et notamment parce que ça retombe majoritairement sur les femmes, hein, puisque comme on l'a dit au début de l'émission, 70% des bénéficiaires sont des femmes, et des femmes qui ont des statuts inférieurs à ceux des hommes dans la plupart des pays. C'est vrai en France aussi, hein, les inégalités femmes-hommes sont partout. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel. J'ai pas de solution innovante, mais juste un conseil, il faut vraiment prendre en compte les problématiques d'égalité femmes-hommes quand on mène un programme de microcrédit, sans quoi on peut renforcer les inégalités.
Et si on est un client éventuel, après tout ce que vous avez raconté, on se dit « Ouh là là, jamais je ne prends un microcrédit ». Quelques conseils peut-être pour ne pas se faire avoir, très rapidement, quelques secondes, Isabelle Guérin.
Un microcrédit, pourquoi faire ? Il faut savoir qu'une très grande partie de ces microcrédits, on ne l'a pas dit, il faut absolument le dire, sont en fait utilisés pour de la consommation.
Au lieu de mener un projet économique, comme on l'a annoncé à l'Institut de microfinance.
Exactement. Donc, première question, à quoi vais-je utiliser mon microcrédit ? Et en fonction de l'usage que je vais en faire, je vais créer une petite entreprise ? Est-ce que je suis sûr que c'est le crédit qui est la principale barrière ? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres contraintes ? Cette question est absolument centrale. Si je crée une petite entreprise, quel va être le profit que je vais en retirer, et je compare ça avec le taux d'intérêt, et si c'est de la consommation, est-ce bien raisonnable?
Est-ce bien raisonnable? Voilà, c'était la bonne question à se poser. Merci à vous deux, Isabelle Guérin, vous publiez La microfinance et ses dérives, émancipée, disciplinée ou exploitée. Merci à vous, Pauline Chabert, consultante en développement. À demain pour 7 milliards de voisins.